pas. Jésus vient encore nous dire ce soir une parole de vie, une parole d'espoir, une parole qui est faite pour nous, une parole qui nous rejoint au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre être, qui nous tient debout, qui nous remet en marche si besoin était, surtout après les épreuves physiques, morales, relationnelles et spirituelles. Cette consigne de Jésus, « Ne craignez pas », relie les quatre lectures que nous propose la liturgie et en fait un beau bouquet que je vous propose de regarder d'un peu plus près. Première fleur du bouquet, la lecture du livre du prophète Jérémie. Vous savez, Jérémie est contemporain des plus grands malheurs de son peuple. C'était vers 600 avant Jésus-Christ. La prise de Jérusalem, la destruction du temple et l'exode à Babylone. Rien que ça. Et toute sa vie, Jérémie, explique à qui veut l'entendre que Dieu ne peut pas venir en aide à un peuple qui ne lui fait pas confiance. Un peuple qui craint. Un peuple qui a peur. Il faut dire qu'à l'époque, personne ne respectait la loi de Dieu. En gros, là, ni les rois, ni le roi, ni les prêtres, ni le peuple. Et toute la vie de Jérémie sera un véritable paradoxe. Ce qui fait sa joie la plus profonde est en même temps sa source de souffrance. C'est parce qu'il proclame la parole de Dieu qu'il est persécuté. Mais en même temps, c'est cette même parole qui lui donne la force de continuer. Rien ne l'arrête. Il le dit lui-même. On l'a entendu, le Seigneur est avec lui comme un guerrier redoutable. Il sait que l'amour de Dieu sera plus fort que lui, alors il craint pas. Il craint pas. Deuxième fleur du bouquet, le psaume. Alors les psaumes, d'une manière générale, on peut dire que ce sont des chemins de l'homme vers Dieu. Et celui-ci en particulier, il commence par par toute une série de supplications, de lamentations, puis ça se transforme en prière, puis à la fin du psaume, ça devient un chant d'action de grâce. Voilà, ça nous réoriente vers Dieu. Et c'est une donnée permanente dans la prière juive que de mêler supplications, lamentations, et puis action de grâce. Le psalmiste ne craint pas, lui aussi, il sait qu'il est exaucé, et il chante la victoire. Alors la troisième fleur, c'est à l'aide de saint Paul aux Romains. Là, on est devant un des textes, à mon avis, les plus difficiles de toute la Bible. Vous pourrez le relire tranquillement. Mais la clé de ce texte, sans doute, elle est dans la dernière phrase qui parle de grâce donnée. La grâce de Dieu a comblé la multitude, cette grâce qui est donnée en Jésus-Christ. Vous voyez, la grâce de Dieu, ce n'est pas une chose, ce n'est pas un objet qu'on se donne, qu'on pourrait se transmettre. La grâce de Dieu, c'est une relation. C'est une relation d'amour entre Dieu et l'humanité. Grâce, en fait, c'est synonyme d'amour de Dieu. Vous savez, à la fin de la messe, le prêtre ou le diacre dit « Allez dans la paix du Christ ». Et puis l'assemblée répond « Nous rendons grâce à Dieu ». Ça veut dire, nous répondons à l'amour donné de Dieu par le fait de le recevoir et de lui renvoyer cet amour. Vous voyez, c'est une relation. Cette relation d'amour, elle est vitale. Elle est vitale pour nous, elle nous comble, parce que tout simplement, on est fait pour elle. Tout simplement, on est fait pour cette relation. Et en Jésus, cette relation est tissée pour l'éternité, une fois pour toutes. Jésus, il est à la fois Dieu qui attire l'humanité vers lui, puis en même temps, il est l'homme qui se laisse combler par Dieu. Vous voyez les deux mouvements, c'est magnifique. Donc rien à craindre si nous acceptons de vivre suspendus au souffle de Dieu, si je puis dire, si nous accueillons de lui, avec lui, cette relation qui nous fait vivre. Enfin, quatrième fleur, l'Évangile. Alors il suffit d'entendre l'insistance de Jésus à dire trois fois « ne craignez pas » pour comprendre que les disciples, ils avaient sans doute des bonnes raisons d'avoir peur, d'être inquiets. Mais nous aussi peut-être ce soir, surtout après l'épidémie mondiale qui n'est pas encore disparue, puis les conséquences économiques et sociales. Ainsi, c'est le cas. Rappelons-nous cette phrase de l'Évangile qu'on a entendue il n'y a pas très longtemps, c'était à l'Ascension. « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. » Cette promesse de Jésus, elle est au cœur de notre foi. Et elle nous permet de ne pas craindre. Elle ne nous permet pas de craindre. Jésus est avec nous, mais effectivement, on ne le voit pas. Alors comment il est avec nous? Ben, on le sait, mais on peut se le rappeler. Il est avec nous par les sacrements, en particulier le sacrement de l'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne, dont certes on a été privé un certain temps, mais comme disait je ne sais plus qui, là, on n'est pas forcé de monter au sommet tous les jours ou tous les mois. Ce n'est pas grave. Jésus, il est là aussi par son corps rassemblé ce soir. C'est le corps du Christ rassemblé dans une communauté qui est présence du Christ. Et puis, il est avec nous par son esprit qui pénètre les cœurs, les corps, les sociétés, l'Église. Et ça va au-delà des frontières visibles et invisibles de l'Église. Voilà comment il est présent. Jésus n'a pas disparu. Il demeure en nous. Il est plus intérieur à nous-mêmes que nous-mêmes. Et donc, il nous dit, oui, de ne pas craindre. Et c'est lui qui vient à la rencontre de nos inquiétudes. Plus rassurant encore, si je puis dire. Si on croit que Jésus, et on le croit, est revenu dans le sein de Dieu, à l'Ascension, où il était avant son incarnation, alors nous pouvons croire que nos disparus de nos familles, les défunts que nous aimions, ils sont aussi avec lui, dans le sein de Dieu, pour l'éternité. Ils ne sont pas du tout perdus. C'est vrai qu'on dit, tiens, j'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu mes parents. On comprend bien le langage, mais ils ne sont pas perdus du tout. Ils sont au contraire au centre de tout, mais en dehors du temps, et en relation avec Dieu et avec nous. Voilà, quatre fleurs que je vous propose pour un beau bouquet. Ne craignons pas, et donc essayons de regarder d'abord vers le beau, le bien, le grand, le bon, avant de voir ce qui ne va pas. Et puis surtout, ou encore, ne craignons pas de proclamer l'Évangile sur les toits. C'est dans l'Évangile, hein. Allez proclamer l'Évangile sur les toits. Voilà. L'Évangile sur les toits, moi, ça me dit que il faut proclamer l'Évangile dans toutes nos relations, à travers de nos actes, de nos paroles, ici à Ville-d'Avray, et puis tout au long de l'été, sur nos lieux de vacances. La bonne nouvelle de l'Évangile, elle peut atteindre tout le monde, plus ou moins secrètement. Amen.